Scrivens O, Scrivens A.
Ceci est un podcast plus particulier qu'à l'ordinaire, puisque nous allons parler écriture de textes mis en musique, des chansons en somme. Notre invité, Dominique Sorrente, dans le festif podcast de février, évoquait les rencontres marquantes de sa vie d'auteur. Christian Guèze, Jean-Marie Pelt ou encore Carl Jung pour son rapport aux coïncidences. Car, dit Dominique dans un aphorisme, l'aube doit apprendre au hasard qu'il n'existe pas. Ce podcast consacré au dernier album de Dominique Sorrente et de son groupe, Ivre Vivant. La place qu'occupent les prix qu'il a reçus en tant qu'auteur, son travail avec les maisons d'édition sont aussi à l'ordre du jour. Alors, pour commencer, puisqu'il a été déjà question du personnage de Bran dans le podcast de février, voici une chanson qui lui est dédiée.
On peut dire que ce jour-là, Bran ne fait ni une, ni deux. Il cesse tout de go de plier les cheveux en quatre. Il embrasse le lampadaire voisin, congédie les cendriers benets. Compte négligemment sur ses doigts les étoiles au-dessus des toits. Il se dit en lui-même que chacun aujourd'hui, s'il le désire vraiment, pourra traverser la rue à reculons, voire à cloche-pied pour les plus fervents. Certains décolleront peut-être du sol. Il se dit encore que même les humeurs voiturières s'inclineront inévitablement devant pareille conviction. Sur tout le corps, il se badigeonne d'audace. Puis il reprend son entraînement journalier de téléportation entre l'île de Pâques et la gare de la Roche-Migène. Ainsi la lenteur, la bienheureuse lenteur, avec son air d'atterrissage naturel, se met à gagner en lui.
Parlons chanson, parce que ça c'est vraiment l'actualité du moment. Je me trompe ?
Oui, tu ne te trompes pas.
Mais encore, je crois qu'il y a un CD qui vient de sortir ou qui va sortir.
Oui, il est là physiquement, je le vois. Il existe. Moi, pour moi, c'est très important hein, la question de l'objet. On m'a demandé pour les livres aussi. On m'a dit mais alors pourquoi écrire ? Et une de mes réponses, qui est assez lamentable, je dois le dire, c'est pour essayer de moins perdre mes écrits. J'ai moins de risque de perdre si c'est dans un livre. Donc ça vaut le coup de publier, quoi. Ben pour la chanson, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Là, les chansons, j'en ai choisi 11 dans cet album. Et l'idée, c'était de les rassembler. Mais après, c'est une aventure. Parce que là, entre le moment de la création la guitare pour moi, la création se fait vraiment avec ma guitare, et puis l'élaboration avec les arrangements, l'intervention de musiciens ou d'autres chanteurs, le studio jusque au pressage, le livret qui est très important pour moi, y a toute une chaîne. C'est pour ça que c'est un grand plaisir, je dois le dire.
Donc l'album s'appelle Ivre Vivant, pluriel. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver ?
Alors, Ivre Vivant, c'est une expression que j'ai choisie et qui est un des titres, ça s'appelle Les Ivres Vivants. Et le trio que j'ai formé avec Audrey Gambassi et Eric Papakalauduka s'appelle Les Ivres Vivants. Donc j'aime beaucoup cette expression. Ça fait sourire les gens. Et je l'emmène avec moi.
Eux deux sont aussi chanteurs ou bien jouent-ils juste un son ?
En fait, ils sont tous les deux chanteurs, mais avec moi, Audrey est la chanteuse. Et Eric intervient plutôt à la deuxième guitare et il dit un texte dans le cadre de cet album. Après, en public, il chante aussi. Voilà. Donc, on a. Et puis, il est pianiste aussi. Donc, selon les situations. L'idée, c'est d'avoir une expérience scénique à tous les trois. Hein. Et là, simplement, là, c'est autre chose. Là, c'est l'album. Donc, c'est mon album personnel, là. Parce qu'il y a des chansons avec Rémi Bernard qui a été l'arrangeur avec moi. On a travaillé vraiment les arrangements des chansons. C'est passionnant. Et qui a joué la deuxième guitare, la partie accordéon. Voilà. Et puis aussi avec une violoniste que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Javelot. Et il y a quatre chansons où elle intervient. Et c'est un grand, grand plaisir d'avoir tout cela. Et alors, les chansons en question, elles sont issues de. Bon, ce sont des créations relativement récentes, celles-là. Il y en a une qui me. Non, mais j'ai appris à les aimer toutes. Mais elles ont toutes une histoire. Je pourrais faire une émission sur chacune de ces chansons.
Alors, elles ont une histoire, elles s'inscrivent dans une histoire.
Elles s'inscrivent dans une histoire et elles. Parfois, les chansons, mais c'est comme les poèmes, elles viennent très très vite. Quand je me concentre, je peux finir une chanson en une journée.
Mais tout de même, il y a une différence entre écrire une chanson et écrire un poème. Ou
Oui.
pas. Ou est-ce qu'un poème peut devenir chanson?
Alors, chez moi, je ne procède pas comme ça. C'est-à-dire que si un poème a été donné comme poème, il restera poème. J'ai une intention de chanson, ce que je n'ai pas forcément. Pour une chanson, je peux partir sur trois accords et j'ai pas de mots. Et inversement, j'ai des mots et je vais après travailler sur une musique, essayer de voir comment ça peut intervenir. Mais chaque chanson a aussi une histoire. Là, il y en a une, par exemple, qui s'appelle Ami du Monomotapa. Ben, cette chanson, moi, j'y tiens énormément parce que elle est née de la rencontre avec un poète qui s'appelle Daniel Schmitt, qui a 95 ans aujourd'hui. Et c'est quelqu'un avec qui on a une relation très forte, incroyable, hors du temps. Et c'est quelqu'un que j'ai connu relativement tardivement. Eh bien, j'ai voulu écrire une chanson par amitié intense. Et le titre Ami du Monomotapa, il est issu d'une fable de La Fontaine, moins connue que certaines autres, qui est merveilleuse, qui s'appelle et qui commence comme ça: Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. Traduction: Les vrais amis n'existent pas. Et cette phrase, je la trouve extraordinaire. Et donc, ça s'appelle Ami du Monomotapa.
Il vous faudra commander ou écouter sur les plateformes d'écoute Les Amis du Monomotapa, issus de l'album Ivre Vivant. En effet, Dominique Sorrente nous a mis là l'eau à la bouche. Mais l'amitié est une valeur chère à l'auteur, qui se trouve au centre d'une autre chanson que je vous invite à écouter tout de suite.
Ami m'avait dit, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça dessine du corps à l'âme d'étranges courbes de folie. Ici mon ami m'avait dit, c'est la ronde des parfums qui danse, ça respire un éphémère d'incandescence. Ça se cajole à tour de bras, ça se serre fort loin des vacarmes, jusqu'à laisser jaillir toute ta réserve de larmes d'un autre monde, et oui, c'est ça. Ici mon ami m'avait dit, ça ne s'explique pas, ça se vit, et puis ça vient, ça va, où tu ne t'attends pas.
ne s'explique pas, ça se vit. C'est ton ombre qui court, elle part rejoindre son soleil. Ça ressemble un peu à l'amour qui parle oiseau ou abeille. Tu te sens soudain exister, même devant un bol ébréché. T'as le son d'ornithologie, commence par le mot colibri, c'est ainsi. À qui perd gagne, en croisant l'autre tu lui dis que la vie s'y t'accompagne. Et moi pauvre de moi, des mains masseuses en voie tantra, je me suis senti dérivé en néophyte, désorienté de tisanière en teranga. S'explique pas, ça se vit. Le troisième œil en sixième sens, ramasse les cailloux de ta chance. Prends le mode d'emploi à l'envers pour coller le ciel à la terre. Et moi, balou perché dans l'herbe douce, j'ai roulé. Je suis même parti en transe au trait d'union du grand silence. Du reste, je ne m'en souviens pas. M'avait dit, ça ne s'explique pas, ça se vit. Dans cet espace des possibles, difficile de rester impassible. À croiser dame nature avec toutes ses créatures. Bientôt, la métamorphose viendra.
Quelques mots à dire en plus sur les amis du monomotapa.
Oui, c'est difficile à dire, hein. Oui, comme l'amitié. Non, c'est en fait le plaisir de réaliser une chanson en pratiquant le parler-chanter. Ça, c'est quelque chose à quoi je tiens. C'est pour ça que je parle volontiers de chanson-poème. Pour qualifier mon travail en matière de chanson. Et à une époque, on disait la formule chanson à texte. Et bon, je préfère dire chanson poème pour qualifier ce que je fais. Les gens qui m'ont vraiment influencé, c'était notamment Leonard Cohen, le poète et chanteur, dans laquelle la voix parlée et chantée, les deux voix sont proches. Et puis cette façon répétitive d'aller au réel et de faire surgir des images. Et puis des gens comme Paco Ibáñez, espagnol, Brassens en France. C'est toujours de toute façon l'idée que la chanson est portée par des mots. Et simplement, les mots en question, ils ont une énergie et une fluidité qui est permise par le plaisir de la musique. Il faut que j'ajoute que moi, je suis dans une famille vraiment de musiciens. J'ai un oncle qui était chef d'orchestre et compositeur, une tante pianiste. Eh bien, moi, je n'ai jamais appris la musique. Je suis autodidacte en musique. À 17 ans, toujours, c'est 16 ans et demi, 17 ans, j'ai pris une guitare et j'ai écouté.
Et chanson, poème, ça c'est intéressant parce que ma question était justement quel parallèle et différence on trouve dans la voix, plutôt entre la voix qui dit un texte et la voix qui la chante, qui le chante, pardon.
Au fond, j'irais plutôt du côté de ce qui est commun, c'est la voix. En poésie, il m'arrive, quand je fais des lectures, j'aime pas trop le mot performance. Alors moi, je fais quelques réelles performances, mais J'emploie le mot à bon escient, avec une raquette de ping-pong, par exemple. Là, j'appelle ça une performance. Mais je préfère parler de lecture en général, ou de lecture poétique, lecture musicale. Je commence souvent avec un instrument de musique qui m'accompagne, qui s'appelle l'alilintar. Et au fond, l'idée est de commencer par le silence. Il y a le silence, il y a du son, du bruitage, et puis advient la voix. Et la voix peut être parlée, et la voix peut être chuchotée, la voix peut être criée, et la voix peut être chantée. Et donc, pour moi, il y a un continuum entre toutes ces expressions-là. Et je ne sépare pas ces univers. Et quand je donne des spectacles, j'aime vraiment maintenant mêler tout ça. Tout ça est mêlé. Je vais pas me... Disons que la formule de la lecture à partir d'un livre qu'on ouvre, c'est une dimension de ce que je peux faire. Mais c'est absolument pas la totalité de mon expression. La poésie, elle est parole. Elle est parole depuis la nuit des temps, enfin, pour moi.
Qui dit chanson dit justement interprétation, incarnation, vivre le texte sur scène et en oubliant le support livre, le support papier. Est-ce que c'est ça?
C'est le statut de la, au fond, de la partition aussi. La voix, c'est la voix qui va être le médium. Et c'est la voix qui va faire qu'on va rejoindre les personnes. C'est pour ça que la chanson, pour moi, est vraiment importante, parce qu'elle m'a permis de rejoindre aussi plus de gens. Elle m'a appris aussi que je pouvais faire deux choses à la fois, si je puis dire. La première, c'est emmener à travers une musique avec toute la question de la ritournelle. Et puis la deuxième, c'est d'arriver à apporter des mots auprès des auditeurs. Donc, dès lors qu'on est en effet en spectacle, c'est la voix qui va être la première. Alors il s'est trouvé que j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup d'enseignements, de formations variées, et je disais souvent que la première chose, c'était les yeux. Donc on écoute avec les yeux. Et je me souviens très bien d'étudiants, quand je m'amusais à me tourner et ne plus les voir, il dit, ah, où est-ce que vous êtes? Et je parlais. Simplement, mes yeux n'y étaient plus. Donc, il faudrait rajouter cela dans l'expression du spectacle, c'est on s'adresse. Le point commun, c'est le fait de s'adresser. Moi, j'aime l'écriture qui s'adresse, la parole qui s'adresse. C'est le cœur de la pratique et on peut le prendre de façon immédiate. On s'adresse à un enfant, on lui parle. On peut aller jusqu'à une dimension mystique, on s'adresse à l'inconnu, à l'indicible, à l'au-delà. Et puis on s'adresse dans la vie, dans cette vie courante. Simplement, quand on le fait en poésie, l'adresse, elle est troublante, parce que elle a une, je sais pas si ça s'appelle une magie, mais il y a quelque chose qui se passe que les gens ne retrouvent pas dans des formes de langage, de langue commune. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et d'ailleurs, sans être trop dans la gravité, mais je l'assume, hein. Je suis assez frappé comme quand il y a des enterrements, des obsèques, il y a bon, les textes religieux, et après les témoignages, et après les gens se tournent vers les poèmes. Et ça m'est souvent arrivé de me rendre compte que l'appel à des poèmes, c'était la façon, alors pas de combler entièrement évidemment ce qui se passait, mais de rendre ce silence inspiré. Le silence de ce temps de rapport avec la mort, c'est La poésie est à même de le faire. Et je ne trouve pas d'autre lieu d'expression où on puisse faire cela, sauf bien sûr la musique, mais qui est dans une autre catégorie.
Pour en revenir à la musique, tu te dis autodidacte, néanmoins venant d'une famille de musiciens. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette aventure musicale? Est-ce que un poème revêt une certaine musicalité et devient alors chanson? Ou alors je me plante complètement quand je dis ça?
Non, ce que je pense, c'est que parmi les auteurs que j'ai lus lors de mes 16 ans et demi, 17 ans, il y avait par exemple des poèmes d'Aragon, mais mis en musique par Brassens, par Jean Ferrat. Et en fait, ces poèmes, je les aurais sans doute lus, je pense, mais je les ai d'abord entendus en musique. Et c'est le « Il n'y a pas d'amour heureux » d'Aragon. « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son corps. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Sa vie, elle ressemble à des soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre matin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, désarmés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il le chante, Brassens, et je les ai entendus chanter. Et je ne suis pas passionné par la voix de Brassens. Donc, j'ai même... je la trouve pas du tout captivante. Mais c'est bien par une voix chantée que j'ai entendu ces mots. Et ensuite, ils ont été déposés... sur un papier, et je me suis dit, c'est beau, c'est très beau. Donc la chanson m'a appris ce pouvoir poétique en circulation. Et je sais pas, Nougaro à 17 ans, là aussi, j'ai trouvé, il y avait quelque chose, Barbara. Donc il y a quelque chose que la chanson me permettait de rejoindre à travers cette alliance entre le poème et la chanson. Et dans mon disque, le dernier texte, un texte que j'ai publié dans le livret, c'est un texte que j'ai écrit qui s'appelle « La chanson, le poème, le dialogue improbable ». Alors c'est un texte souriant. Il y a le personnage de la chanson et le personnage du poème qui se parlent entre eux. C'est mes deux compères, Eric et Audrey, qui le font sur la scène quand on le joue. Et c'était drôle parce que pour moi, c'était un dédoublement de moi-même, dire celui qui est dans la chanson et celui qui est dans le poème, pas en caricaturant, mais un peu quand même, celui qui est poème est plus solitaire, dans son propre monde, dans sa caverne, etc. Et la chanson, elle prend son chemin, elle croise les gens, elle est espiègle, etc. Enfin, il y a ces deux personnages, et c'est une alliance qui s'est faite en moi, mais à l'origine. Donc, j'ai été poète sans chanson, c'est une part de moi. Au même moment où j'avais le truc de Brassens, j'avais aussi Henri Michaud. Donc j'avais... Cette conscience-là, elle m'a fasciné. Mais il y avait l'autre qui m'appelait à m'y prendre autrement. Et c'est celui que j'appelle le troubadour qui est en moi. Mais le troubadour, pas au sens édulcoré, hein, c'est la vraie tradition troubadour, elle est invraisemblable. Et c'est de la poésie chantée qui va d'un lieu à un autre. Avec l'amour de loin, il y a une mystique du troubadour, etc. Enfin, donc, au fond, c'est un personnage dans lequel je me reconnais.
Et chanter, parce que moi, je l'éprouve moi-même. D'ailleurs, je me rends compte, tout d'un coup, je me mets à chanter. C'est incroyable. Et je me dis, mais... c'est que tu es bien dans tes baskets aujourd'hui.
Eh oui.
Est-ce que c'est ça qui t'a attiré vers la chanson de façon intuitive, machinale, parce que chanter amène la joie?
Alors, il y a chanter, et pour ce qui me concerne, encore une fois, quand j'ai commencé à 17 ans, je vois cet ami venir avec une guitare. Et c'était aussi le miracle d'un son avec un instrument de musique. Donc c'était chanter avec un instrument. Et là, il y a un côté physique dans le rapport à la guitare et aux instruments de musique, à tous les instruments de musique. Et je l'ai gardé et ça me fait beaucoup de bien. Parce que le piège de la poésie papier ou écran, c'est le rapport avec le cérébral. Et donc, il y a vraiment cette nécessité de retrouver des vibrations plus organiques. Et le chant, alors toutes les personnes qui étudient les bienfaits du chant le diront, le chant de façon générale, c'est la respiration, ça muscle, ça met de bonne humeur. Enfin, il y a plein de choses qui s'y passent. Je sais que j'ai eu la chance de ne pas avoir d'extinction de voix dans ma vie professionnelle, mais je sais très bien pourquoi. Parce que je plaçais correctement ma voix. Et donc, j'ai pas eu ces difficultés-là. Mais chanter, c'est en effet, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais c'est Orphée, hein. ça vient de la nuit des temps, l'expérience du chant et du chant poétique, la poésie donnée comme un chant premier dans nos êtres.
Merci. Je n'ai pas pu m'empêcher de consulter Internet pour obtenir quelques infos supplémentaires, notamment sur ton parcours. Et il se trouve que tu as une page Wikipédia. On y met en avant les prix que tu as reçus et je me demandais comment cela t'a-t-il aidé? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Porté justement, est-ce que cela t'a porté?
Alors en fait, quand j'ai commencé à écrire et publier, je pense qu'il y avait un rapport de reconnaissance que j'avais. Et les prix, c'était quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai un côté joueur. Hein, j'aime bien les matchs où on gagne. Hein, et donc, un prix, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et ça m'a fait du bien au moment où ça est arrivé. Chacun avait un style particulier. Hein, je vois des scènes. Le prix Antonin Artaud... Par exemple, c'est à Rodez, je vois les gens qui sont là à cette époque-là, et ça, c'est vrai que ça m'a conforté, c'était pour Petite Suite des Heures, c'était pour un livre particulier. Donc ça, les prix m'ont donné cette chance-là. Après, j'ai une situation plus particulière, c'est le prix Georges Perros que j'ai obtenu en 2011, mais la date pour moi est très particulière puisque c'est en octobre 2011 et que j'ai eu la remise de prix, c'était en Bretagne, à Saint-Malo, et le lendemain j'ai eu un coup de téléphone disant que mon épouse avait été renversée dans un accident de la circulation à Paris, rue Vaugirard, et elle en est morte. Et j'ai repassé cette scène, je sais pas combien de fois, mais il y a eu cette petite gloire de ce prix à Saint-Malo. Il y avait le fils de Philippe Jacoté qui était là, parce que Philippe Jacoté avait reçu le Grand Prix. Et puis la nouvelle dévastatrice, voilà. Et on regarde ça. Après, rétrospectivement, en disant, bon, le prix et puis la tragédie. Mais au fond, Moi, je ne renie pas les prix, simplement. Ils ont un sens pour avoir envie de poursuivre. On est un peu reconnu par des pairs, PAIRS. En relativisant bien cette notion, je ne suis pas dupe de cette notion des pairs. Moi, j'en ai eu besoin. Même aujourd'hui, je serais très content d'avoir certains prix que je n'ai pas eus. Peut-être à cause des noms. Il y a des noms de prix qui sont beaux. Donc, ça serait pour quelque chose comme ça. Après, voilà. J'ai un beau souvenir aussi d'un prix très ancien au début, sur manuscrit. C'est ça l'humour, hein. Ça n'a jamais été publié. C'était le prix Guy Lévis-Manaud, le prix GLM. Guy Lévis-Manaud, c'était un imprimeur, typographe, éditeur, qui avait publié notamment Éluard. Et je vois André Chédid qui m'accueille et qui me dit: Ah, Dominique Sorrente, nous vous avons choisi. Évidemment, c'était vous qui étiez nettement supérieur, etc. Voilà. Et ce manuscrit, il s'appelle, je crois, Sagesse du Sablier. Il n'a jamais été publié. Voilà. Bon. Mais le moment était magique, on dirait aujourd'hui.
Mais tout de même, il y a eu une collaboration assez étroite pendant un certain temps avec les éditions Chaille.
Oui,
Je prononce Chaîne,
oui,
Chaîne, pardon.
chaîne. Oui.
Et comment travaille-t-on avec un éditeur que l'on connaît depuis longtemps? Comment ce travail évolue-t-il au fil des années?
Alors, Chaîne, la particularité avec Chaîne, c'est que vraiment j'étais au commencement. Ça fait partie de mes chances. Et j'ai toujours cru au commencement. Et ça, je le dis pour tout le monde. Il faut essayer d'être au commencement des choses. Voilà, commencement d'un festival. Et là, j'étais au commencement de l'aventure de Chaîne, qui s'appelait Imprimerie de Chaîne à l'époque, en Haute-Loire. Donc, j'ai été dans la deuxième fournée. Donc, il y a eu juste les auteurs de 81 et La lampe allumée sur Patmos, publiée en 1982. J'ai vraiment deuxième temps de l'aventure de Chaîne, qui a été animée par Jean-François Magnier et pendant assez longtemps par Martine Mélinette. Et puis Jean-François a passé la main, il y a quelques années, à deux nouvelles personnes. Donc, avec Jean-François, on a eu l'aventure de plusieurs livres successivement. Et mon dernier livre chez Chaîne s'est passé à la jonction entre la transmission de sa part et puis la reprise par le nouveau tandem. Je dois dire, avec Chaîne, j'ai connu des rituels. C'est un éditeur qui était très sensible. Il était en Haute-Loire. Il est typographe, là aussi. Il y a un amour du plomb, de la matière, du livre qui tient, du livre qui a une justesse, une rareté. Il avait tout un art de déployer son édition dans le pays, des relations particulières avec des libraires, et il a tissé vraiment tout cela. C'est un travail énorme des années 80. Il a été à la belle époque aussi des années 80, qui était, on appelait ça les années Mitterrand ou Lang. Hein, c'est les conditions de vie aujourd'hui ont changé, hein, pour la littérature. Donc ça a été la belle période. Et puis, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des frictions. C'est de notoriété presque publique, mais c'est-à-dire, j'ai publié 7 livres, mais j'en ai eu plus de 7 refusés. Donc, par le même éditeur,
Par le
oui,
même
oui, oui
éditeur.
c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de, comme on dit aujourd'hui, de chèque en blanc du tout. Aussi à cause de la rareté des livres. Hein. Là, je me fais l'avocat de l'éditeur. Il publie la collection verte, qui était la plus prestigieuse et qui demeure aussi la collection souvent valorisée. Il y a 3 ouvrages ou 4 par an. Donc, il y a du monde qui aimerait bien les avoir. Donc, bon, moi j'ai eu cette chance, mais j'ai eu aussi des refus. Les la préoccupation de l'éditeur n'est pas celle de l'auteur. Ça, c'est bon.
Est-ce que c'est une sorte de compromis parfois ou...
Alors, c'est allé.
Ou de tendance générale de la ligne éditoriale de la maison.
Ben, c'est-à-dire, on finit par connaître. Moi, je me souviens qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse du Sorrent pour justifier un refus. Et c'est compliqué, parce que tout à l'heure, on parlait de Bran et des personnages qu'il y avait en moi. Je sais qu'il y a des personnages de moi qui ne pouvaient pas entrer dans cette collection. Voilà. Et donc, il fallait que je trouve un autre endroit. La revue des Archers, j'ai pu placer des textes que je n'aurais pas pu placer chez Voix d'encre. Voilà, c'est comme ça. Donc, dans un idéal de mon innocence des années de mes 20 et quelques années, je voulais rencontrer un éditeur et que ça soit mon éditeur. La vie a fait que ça s'est révélé impossible. Et plus je parle avec d'autres auteurs, plus je vois que c'est souvent le cas. C'est-à-dire on fait un livre avec tel éditeur, deux, et puis après on change. Il y a des drames de la vie, il y en a qui s'arrêtent, il y a des nouveaux qui apparaissent, etc.
Alors à ton actif, combien d'éditeurs ?
J'ai pas compté, mais ce que je sais, c'est j'ai un paradoxe, c'est pas un privilège, mais c'est le drame, bon, je l'ai dit en souriant, parce que c'est pas dramatique, mais de l'âge, c'est que je me retrouve avec pas mal de livres, de textes qui sont libres de droit, parce que soit l'éditeur est mort, soit les livres n'ont pas été réédités, donc c'est l'auteur qui récupère... les textes. Donc moi j'ai beaucoup de j'ai des manuscrits, soit de livres anciens, soit de mes propres manuscrits qui sont au chaud dans mes tiroirs et il va falloir que je me préoccupe de remettre en circulation tout ça, parce que j'ai au moins 3 livres, 4 qui sont là. Mais bon, les livres moi j'aime qu'un livre existe. Mais j'ai appris que c'était un aspect de la vie en poésie. Quand je reviens sur l'histoire de mes... Il y aura d'autres, mais des 17-20 ans, c'est pas que de la nostalgie. La rencontre avec Christian Guez, c'est que la poésie, c'est cet instant partagé. C'est pas le nombre de livres, c'est pas le nombre de décorations, de prix, etc. Enfin, ça, c'est l'écume des choses avec la patine du temps. Et il se peut que j'ai un poème, j'ai écrit un poème pour mon petit-fils Gabin quand il avait 3 mois. Bon, peut-être que plus tard, il aura ce poème-là. Voilà. Et il aura peut-être, ce poème aura du prix. Parce que il se dira que ceci a été écrit sur lui à cet âge-là. Et donc, c'est pas une affaire de quantité. Mais bon, il faut essayer de vivre aussi.
Si j'ai bien compris, il aura peut-être à tes yeux encore plus de valeur qu'un prix reconnu par une André Chédid, par exemple.
Oui, parce que moi, quelqu'un qui me dit « Ah, ce poème-là, il m'a marqué, je l'ai mis sur ma cheminée, etc. » On ne sait pas ce qui se passe. Non. C'est la cruauté, hein, en tant qu'auteur. On écrit quelque chose, même pour soi-même. On écrit un poème à un moment donné, la vie passe, ou une chanson. On ne sait pas qui écoute cette chanson, dans quelle situation. On a un poème d'amour. Moi, j'ai écrit pas mal de poèmes d'amour. Mais ce n'est pas ma vie amoureuse qui est intéressante. C'est... Peut-être que ce poème d'amour, c'est arrivé, je le sais, des gens qui ont piqué un de mes poèmes d'amour, et ça a permis à un tel ou un tel de dire quelque chose. Eh ben, là, voilà, là, c'est bon. Ça, c'est du... Il se passe quelque chose.
Le job est fait.
Oui, c'est ça. Mais moi, je ne le saurais pas. Je ne le saurais pas. Non, mais il faut y penser. Moi, je sais qu'avec des confidences de poètes, on sait que, par exemple, la relation entre Louis Aragon et Elsa était une relation terrible, terrible. Les poèmes d'amour à Elsa. Et personne, quand on lit les poèmes Les yeux d'Elsa, personne se dit si les règlements de compte entre eux étaient rudes. En fait, il reste le poème. Il reste le poème ou la chanson. Toute la genèse de tout ça, n'y est plus. Mais c'est ça qui a fait la chanson ou le poème. Et ça crée quelque chose de mystérieux. Parce que j'ai une chanson qui s'appelle Ophélia. Moi, je regarde cette chanson maintenant. Au départ, il y a quelqu'un. Mais maintenant, je ne vois plus qu'une chanson. Et la chanson, elle, elle a sa propre vie. Je pense que c'est une des vertus, enfin, c'est peut-être pas le mot, hein, mais c'est un des prodiges de la création.
Oui, c'est que lorsqu'on crée quelque chose, au bout d'un moment, ça ne nous appartient plus.
C'est ça.
C'est ouais. Offrir au monde ah oui, sa c'est création. Ça. Pour finir, avant de vous laisser découvrir un autre des titres de l'album, nous faisant voyager dans des contrées lointaines, je tenais à remercier Radio Galère. À bientôt.
...599 Belmont Avenue. Une nuit d'octobre, je me suis arrêté. La lune était presque pleine partout. La brume jouait à nous égarer. 599 Belmont Avenue. J'ai compris la suprême grâce. Ne pas atteindre le numéro 600, c'est tout. Des comptes ronds, la vie se lasse. La vie se lasse. Où m'emmènes-tu, Montréal? Quelqu'une me manque et j'ai mal. Il y a un poète perdu qui se demande où est sa rue. La 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 la. Ce soir-là, mes vieux amis intenses, je glissais dans les feuilles rouges. La nuit formait des pas de danse, des arêtes de trottoir qui bougent. J'ai approché peu à peu la lumière pour me loger dans le hall secret où il n'y a plus qu'une ancienne prière qui me dit viens, viens me chercher. Viens me chercher. Où m'emmènes-tu, Montréal? Quelqu'une me manque et j'ai mal. Il y a un poète perdu qui se demande où est sa rue. La 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 la. Le temps que réponde un silence, le moteur de la voiture tournait. Le monde est palabre et souffrance, mais là-bas s'allume ton portrait. Et au 599 Belmont Avenue, deux écureuils fantômes noirs racontent qu'ici il y a tout pour que remonte en moi la belle histoire. La belle histoire. Signe encore Montréal au dos de ma carte postale. Poète qui s'était perdu a retrouvé sa rue. Signe encore Montréal au dos de ma carte postale. Le poète qui s'était perdu a retrouvé sa rue. La 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 la. Montréal, jamais trop tard. pour éveiller la belle histoire.